en action concrète.
Une émission conçue pour la promotion de la femme.
Que fait la femme pour survivre?
Comment développer le travail de la femme?
Quelle est la position de la femme dans le monde du travail?
Pour en savoir plus,
suivez l'émission Femmes en action concrète.
Femmes en action concrète.
Une émission qui valorise les activités de la femme et de la jeune fille au quotidien.
À la présentation,
Régine Bahia Pai Pai.
Femmes en action concrète.
À suivre chaque lundi à 16h30 sur la bande FM Radio Maria 89.9 MHz Kinshasa.
Vous désirez participer à cette émission?
Contactez-nous au plus 243 89 48 70 426.
Bon après-midi à vous tous, amis auditeurs de Radio Maria. Bienvenue à cet espace de la femme, émission Femmes en action. Merci d'être présents au rendez-vous de cette émission. Et j'ai la joie de recevoir sur ces plateaux Madame Carmel Mukondo, que je reçois. Bonsoir, Madame.
Bonsoir, maman.
Accompagnée de Monsieur Eugène Moulenda. Bonsoir, Monsieur Eugène.
Bonsoir, maman.
Soyez les bienvenus chez vous, chez nous.
Merci, nous sommes chez nous.
Alors, ils sont tous radiologues. Le samedi dernier, nous avons célébré donc la Journée internationale de la radiologie, raison pour laquelle nous vous avons invité pour en savoir plus dans cette émission. Et comme sur cette terre, la femme ne vit pas seule, et même à la création, après avoir créé l'homme, il a fallu un être semblable à l'homme, raison pour laquelle Dieu a pensé à la création de la femme. Et donc aujourd'hui, c'est une émission de la femme. Derrière la femme, il y a un homme. Et voilà pourquoi, donc, sur ces plateaux, nous avons Monsieur Eugène. Il y a aussi Madame Angèle Mbombo qui pourra intervenir au loin. Elle est avec nous. Nous la saluons de là où elle nous suit. Alors, comme je le disais tantôt, nous allons parler de la radiologie. La radiologie, la radio, l'IRM, on entend parler, mais on ne maîtrise pas grand-chose sur ces services. Nous nous rendons seulement. J'ai un examen radio. On s'arrête là. Alors, je reçois les spécialistes dans ces domaines. On commence par la première question que toute personne peut se poser. C'est quoi la radiologie?
Merci, maman Régine, de nous avoir invités sur ce plateau pour parler de notre spécialité, de notre profession. Moi, je m'appelle Eugène Moulenda, je suis radiologue, je suis spécialiste en imagerie médicale et j'ai cet honneur de pouvoir parler un tout petit peu de la radiologie. C'est une discipline qui est peu connue, même si beaucoup de gens en parlent chaque jour lorsqu'on va à l'hôpital. Mmh. On sait que nous allons à la radio. La radio, c'est quoi? En fait, la radiologie, c'est une discipline médicale qui s'occupe principalement du diagnostic. Le diagnostic, c'est-à-dire déterminer la maladie dont souffre une personne. Voilà brièvement ce dont je peux parler à propos de la radiologie.
Et lorsqu'on parle de la radiologie, on recourt aux rayons X, on lit un peu. Est-ce que ces rayons sont dangereux?
Bien sûr, les rayons X, si nous devons remonter à l'histoire, à la découverte des rayons X, c'était en 1895 par le professeur Wilhelm Conrad Röntgen. Lui était un physicien. Il faisait des travaux de recherche sur les tubes à vide. Et il avait pu découvrir, comme par hasard, des rayons qui traversaient un certain nombre de matières. Et ça donnait un peu de lumière, hein, ça donnait de la scintillation. Alors, il a essayé plusieurs fois, lorsqu'il mettait ses appareils en branle, eh bien, il a découvert qu'à chaque fois qu'il le faisait, il y avait passage des rayons. Mmh. Et comme c'était une période de grandes découvertes, eh bien, les mathématiques étaient une science qui était vraiment en vogue. Et il a donné, comme c'était quelque chose d'inconnu, il a donné à ses rayons le nom de rayon X. Et comme je disais que nous devrions remonter un peu dans l'histoire, ces rayons, il les a utilisés pour produire les images de la main de sa propre femme. Et comme il a utilisé plusieurs fois ces rayons, il a effectivement eu les images de la main de sa femme. Et à la longue, sans savoir ce que ça pouvait donner, c'est-à-dire les risques auxquels la personne était exposée, sa femme était décédée d'un cancer. Parce que ces rayons-là sont effectivement dangereux, très dangereux même.
Est-ce que vous, vous êtes là, vous travaillez dans ces services-là, vous êtes aussi exposée à ces dangers, Madame Carmel?
Oui, nous sommes exposés par des rayonnements. C'est pour cela qu'on fait de notre sorte de nous protéger.
Et comment vous vous protégez contre ces rayons?
Avec des tabliers plombés et aussi des paravents. Il faut que la salle aussi soit plombée ou soit en béton.
Donc, en fait, la salle où l'examen se passe est spéciale. La construction, même l'aménagement est spécial.
Oui, oui. C'est spécial, c'est différent par rapport à d'autres salles. Donc, la construction est vraiment différente pour nous protéger.
Alors, dans quel cas passe la radio?
En fait, la radiologie, qui est une science qui utilise les rayonnements ionisants, et ces rayonnements ionisants, il y en a de plusieurs sortes. Il y a les rayons X, il y a les rayons gamma, il y a les rayons alpha, bêta et consorts, il y a plusieurs rayons. Il y a les rayons qui sortent du noyau et il y a d'autres rayons qui sont produits par les appareils. Alors, on les utilise ou on les exploite principalement pour poser les diagnostics et également pour faire le traitement de certaines pathologies, notamment certains cancers. Eh bien, comme c'est courant dans les services médicaux qu'on pose les diagnostics en utilisant ou en recourant aux rayons X ou à la radiographie, eh bien, il y a plusieurs indications à la radiologie. Les premières indications, c'est par exemple pour les personnes, vous entendez parler des personnes qui toussent, on dit à la recherche de la tuberculose. Ça, c'est une des applications de la radiologie. Poser les diagnostics pour une personne qui tousse, pour voir s'il n'y a pas une pneumonie,
une tuberculose. Une toux qui ne s'arrête pas, à part une toux simple.
Oui, mais une toux qui persiste. Une toux qui persiste avec de la fièvre et on commence à s'inquiéter. On se dit, mais pourquoi cette toux? Actuellement, Kinshasa est rempli des motos. Et vous entendez chaque jour une moto a cogné quelqu'un et quelqu'un est tombé. Eh bien, il est en train de saigner. On pose le diagnostic de fracture. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un accident de transport routier, il y a recours au service de radiologie pour poser les diagnostics. On a d'autres applications plus nombreuses, au-delà de ce que je viens de dire là, pour les os, la recherche des fractures, pour le thorax, la recherche de la pneumonie ou de la tuberculose. Mais d'autres applications sont notamment, par exemple, votre nez est en train de couler là, il y a une rhinite. Alors, à la recherche d'une sinusite, on pose le diagnostic de la sinusite. On exploite la radiologie dans plusieurs domaines, notamment en chirurgie, en gynéco, pour les femmes, par exemple, qui ont des problèmes d'avoir des enfants. On a les examens qu'on appelle hystérosalpingographie.
Donc, en dehors des échographies.
Qui peuvent être complétées par les échographies. Mais à la recherche, par exemple, des obstructions des trompes. Là, on recourt à la radiologie pour faire ces examens-là. Il y a plusieurs indications, vraiment plusieurs indications dans tous les domaines de la médecine, en chirurgie, en gynécologie, en médecine interne, en pédiatrie, orale, en ophtalmologie. Tous les domaines de la médecine sont concernés par la radiologie.
Merci beaucoup, Monsieur Eugène. Quelles sont les différentes spécialités de la radiologie?
Oui, la radiologie a été, elle a commencé à partir de la découverte en 1895, le 8 novembre, des rayons X. Et à partir de là, il y a eu un essor. Il y a eu la découverte des rayons gamma par la suite, qui a permis de mettre en place une nouvelle discipline, la médecine nucléaire, avec la scintigraphie, qui, elle, s'occupe aussi bien du diagnostic que du traitement. Les autres disciplines qui sont nées après, il y a notamment l'échographie, la tomodensitométrie, que les gens connaissent sous le nom de scanner, et également l'IRM ou imagerie par résonance magnétique. Et toutes ces disciplines-là se complètent. On ne peut pas utiliser toutes ces techniques ensemble pour avoir un diagnostic. C'est lorsque, par exemple, il y a les limites pour l'une ou l'autre qu'on peut recourir à une discipline complémentaire de l'imagerie médicale. Parce qu'au départ, c'était la radiologie, mais à la fin, le développement a permis à ce que nous puissions parler aujourd'hui plus seulement de la radiologie, mais de l'imagerie médicale.
Alors, par rapport à toutes ces disciplines, lorsque vous avez parlé des cas où on peut recourir à l'imagerie, vous avez épinglé quelques cas. Est-ce que parmi tous ces cas, la radio, c'est le fait de faire cet examen-là, on le fait de la même manière pour tous les cas ou bien chaque spécificité ou chaque cas des maladies a sa manière de procéder à cet examen?
Oui, chaque discipline est une technique à part et à part entière. Si nous regardons par exemple la radiographie, nous recourons à la production des rayons X.
Oui.
Si nous faisons la scanographie ou la TDM, qu'on appelle la tomodensitométrie, il y a également l'utilisation des rayons X, mais avec des appareils et des techniques différentes. L'échographie, elle, utilise les ultrasons. La médecine nucléaire et la scintigraphie ont recours à l'utilisation des rayons gamma, tandis que l'IRM, nous recourons à l'utilisation des aimants puissants, qui font recourir à des champs magnétiques importants, et on couple ça à des antennes, qu'on appelle des antennes des radiofréquences, qui sont couplées à des ordinateurs puissants.
Autre chose à compléter, Madame Carmel, par rapport à ce que M. Jeune a dit.
Le président Moulinda vient de dire, donc, il y a des différentes sortes de rayonnements. Comme il vient de préciser, il y a des rayons gamma, il y a des rayons X, il y a à l'écho, nous avons des ultrasons. Donc, c'est un peu ça. C'est qu'on peut, on peut dire à propos des différentes sortes de rayons, ce que tu es en train de nous demander.
Alors, comment vous préparez un patient qui se présente pour cet examen-là? Souvent, c'est la phobie, c'est la peur. On dit, bon, voilà, monsieur, madame, vous devez passer un examen des radios. Comment, lorsque vous recevez le patient, la patiente, comment vous procédez pour préparer justement?
Il y a des examens qui exigent nécessairement une préparation. Mais il y a d'autres examens pour lesquels vous pouvez arriver et vous êtes reçu immédiatement sans qu'il y ait une préparation particulière. Ainsi, pour des examens qui exigent, si nous parlons de la radiographie, parce que chaque technique, il y a également des préparations spécifiques. Si je prends la radiographie, un patient qui vient après un accident de transport routier, il passe dans la salle, et on peut faire son examen sans beaucoup de formalités.
Donc on le reçoit à l'État.
Oui. Mmh. Pour une personne qui vient faire un examen à la recherche, par exemple, d'une lésion thoracique ou pulmonaire, eh bien, il y a certaines instructions qui lui sont données pour que l'examen se réalise dans des conditions convenables, de manière à permettre d'avoir des résultats qui seront suffisamment bien interprétés. Ainsi donc, une personne qui arrive là-bas pour un examen de radio, si ce n'est pas une urgence où il peut faire ça en position couchée, assez souvent, on demande à ce que l'examen soit fait en position debout. Et on lui demande une préparation, notamment inspirer, bloquer la respiration et garder la position là, apnée, c'est-à-dire sans respirer. Et alors, on lui montre d'abord comment il faut faire. Hein, nous allons faire comme ceci, nous allons inspirer, vous voyez, pour que vous ne nous fassiez pas faire l'examen deux fois. Quoi. Vous inspirez, vous nous voyez comment nous nous faisons, et puis nous vous regardons appliquer cela.
Oui.
Vous inspirez, vous bloquez la respiration et vous restez en apnée. Et puis nous passons l'examen. Là, c'est une préparation simple pour un examen de thorax. On dit, vous allez être debout, vous allez inspirer, et ça passe comme ça. Il y a d'autres examens, des examens spéciaux. Par exemple, j'ai parlé ici d'un examen gynécologique pour une femme qui vient pour désir de conception. On va faire un examen radiographique, une hystérosalpingographie. La personne doit passer cet examen avant l'ovulation. C'est-à-dire 2 à 3 jours avant l'ovulation, alors que cet examen est programmé. Cet examen est dangereux parce que il peut propager, s'il y a une infection, ça peut être propagé dans le péritoine et ça peut créer une péritonite. Alors il faut éviter de propager une infection qui se trouverait dans l'utérus de la femme, dans le péritoine. Ainsi donc, il faut faire avant la réalisation de cet examen, on demande à la personne de faire des examens de laboratoire pour exclure toute infection. Et bon, par moment, il y a des petits tests pour voir si la personne n'est pas allergique aux médicaments que l'on va utiliser. Ce sont des médicaments spécifiques pour la radio, on appelle les produits de contraste, pour voir si la personne n'est pas allergique à ce produit, parce que de temps en temps, lorsque la personne est allergique aux produits de contraste, ça peut créer des incidents terribles dans la salle d'examen. Alors là, nous préparons la personne pour l'examen qui doit être fait, notamment le jour où l'examen doit se réaliser, ça doit être avant l'ovulation. On doit lui faire faire des examens de laboratoire éviter à ce qu'il n'y ait au préalable une infection qui peut être répandue. On doit se rassurer également que la personne n'est pas grosse, parce que elle peut être grosse en ayant fait des fausses règles. Alors, elle peut être grosse, on doit se rassurer effectivement qu'elle n'est pas porteuse d'une grossesse qui, si elle est précieuse, cette grossesse, et que vous faites cet examen-là, vous risquez de perturber l'évolution normale de la grossesse et provoquer un avortement.
Merci beaucoup, M. Jeanne. On va observer une pause. M. Lecoq Van Toto, notre réalisateur, va nous proposer un chant. On se retrouve juste après.
Je prends soin de ma santé. Je savoure tout en petite quantité. Je veux rester en bonne santé. Pour le goûter, je mange une pomme. En bonne santé, toujours en forme. Je prends des produits laitiers, du calcium pour me consolider. Légumes frais, soupe le soir, faire du sport et surtout
ta petite entité. Je veux rester en bonne santé. Pour le goûter, je mange une pomme. En bonne santé, toujours en forme. Je prends des produits laitiers, du calcium pour me consolider. Légumes frais et soupe le soir, faire du sport et surtout boire. Maintenir une hygiène corporelle, se laver les mains c'est essentiel. Ma santé est précieuse et la vie est merveilleuse.
Voilà, de retour après cette pause musicale avec un très beau chant qui nous invite à prendre soin de notre santé. Nous parlons de la radiologie. Et nous savons que la plupart n'ont même pas une idée sur ça, ou alors nous avons une idée et nous mettons la peur devant. Lorsqu'on dit non, tu dois passer un examen radio, alors on se met dans ces états, alors que c'est un examen comme tout autre. Il faut se présenter devant Madame Carmel, devant M. Gênes, les radiologues qui nous reçoivent, qui nous orientent pour que les examens se passent très bien. Alors, tout à l'heure, vous êtes en train de parler de réactions des rayons ou par rapport à cet examen, au cas où une femme était enceinte. Et je me pose la question, parce que même dans des supermarchés, vous savez, l'ouverture des entrées, on dit, bon, si tu es enceinte, il ne faut pas franchir. Il y a tellement des interdits comme ça. Alors je me dis, vous avez aussi dit cela, vous avez dit quelque chose sur la grossesse. Est-ce que la radio est dangereuse pour une femme enceinte? Un petit mot là-dessus.
Oui, merci. Nous avons abordé un cas spécifique. Néanmoins, nous allons revenir un tout petit peu sur les dangers auxquels exposent les rayons X et qu'est-ce que nous devrions faire pour contourner un peu ce risque-là. Eh bien, les rayons X, ils exposent à des risques nombreux. Les nombreux risques auxquels exposent les rayons X pour une femme, c'est notamment la stérilité ou un homme, la stérilité. Ça expose également à des effets abortifs, c'est-à-dire les rayons X peuvent conduire à l'expulsion d'une grossesse. Ça peut conduire également à des malformations congénitales lorsque la femme est grosse et qu'elle est exposée au rayonnement X. Au-delà de ça, il y a d'autres risques, notamment des cancers. Des cancers, il peut y avoir des problèmes des yeux, des cataractes, ça expose également à la cataracte, et le chapelet est long. Alors, pour la femme, parce que nous sommes dans une émission de la femme, il faut que nous insistions sur la question qui concerne la femme. Eh bien, pour essayer de contourner les risques liés aux rayons X, eh bien, nous recourons à une autre technique. Comme nous avons dit que ce sont des techniques complémentaires, les techniques de l'imagerie, nous recourons à une technique moins dangereuse. C'est l'échographie. L'échographie, jusque-là, elle a démontré qu'elle est très, très performante pour les examens gynécologiques ou les examens obstétricaux. C'est-à-dire pour une femme, qui est grosse. On peut faire autant de fois une échographie sans que elle-même soit exposée à un moindre risque ou le fruit de son sein, notamment à une période de la grossesse, on appelle embryon, à une autre période, on appelle fœtus. Aussi bien pour l'enfant que pour la maman, l'échographie, en tout cas, présente moins de risques. Et également, en gynéco, il y a des examens de la femme, notamment les examens aussi bien de l'appareil génital que du sein. Actuellement, il y a des campagnes nombreuses qui se font pour le dépistage du cancer du sein.
On a fini d'ailleurs le mois d'octobre, octobre rose, on a beaucoup parlé de ça.
Le recours à l'échographie, c'est une technique qui est vraiment très très indiquée pour les femmes jeunes de moins de 30 ans. C'est un examen qui est très, très indiqué pour voir s'il n'y a pas dans le sein des tumeurs qui pourraient se développer vers la forme maligne qu'on appelle le cancer. Voilà un peu des techniques pour essayer de contourner les dangers des rayonnements X, les rayons ionisants.
Alors, parlons de la tumeur. Est-ce qu'elle est visible à la radio lorsqu'on fait un examen radio? Est-ce qu'on peut voir ces mâles-là?
Oui, mais c'est pour cette raison que l'on recourt à des dépistages. Hein? Par exemple, pour le sein, eh bien, les tumeurs sont les premières indications de l'échographie ou la mammographie pour un dépistage d'un cancer du sein. Et les tumeurs, il y en a de deux sortes. Les tumeurs bénignes et les tumeurs malignes. Et ces tumeurs, lorsqu'elles sont bénignes, bon, c'est-à-dire elles présentent moins de dangers, elles ne sont pas encore à la forme de cancer. Et les tumeurs malignes, c'est ça, les cancers, on les voit très très bien et on les diagnostique convenablement à l'échographie lorsque les femmes sont jeunes. Et lorsque la femme a pris un peu d'âge, au-delà de 30 ans, on peut recourir maintenant à la radiographie du sein. Et cette radiographie du sein, on appelle ça la mammographie. Okay. Faut pas avoir peur d'aller parce que maintenant là, hein, dans les dispositions de se protéger contre les risques nocifs des rayonnements, il y a tout un tas de dispositions qui sont prises pour réduire les risques. J'ai aimé au cours d'une formation, il y a quelqu'un qui disait la radioprotection, c'est-à-dire la protection contre les risques des rayonnements ionisants. Il dit la radioprotection, c'est joli. Joli signifie quoi? Joli signifie la justification. C'est-à-dire, on ne peut pas poser un acte de radiographie alors que nous savons que les rayons X exposent au danger. Alors, il ne faudrait pas poser un acte de radiologie si on ne justifie pas. Et la justification, c'est à trois niveaux.
Okay.
Le risque est supérieur au bénéfice. Carrément, on interdit de faire.
Oui.
Si le risque est égal au bénéfice, on fait quoi? On apprécie.
Oui.
Au regard de la situation de notre malade. Si le risque est inférieur au bénéfice, c'est-à-dire le bénéfice est plus grand, nous faisons sans, en fermant même les yeux.
D'accord.
Ça, c'est J. O. Hein? Optimisation. Même si les risques sont élevés, on doit par tous les moyens réduire au minimum les doses de manière à ce que ça réduise les risques. On appelle ça optimisation. Mais pour continuer à assurer la protection contre les risques au rayonnement ionisant, il y a le troisième groupe qu'on appelle LI, joli, ou LI, c'est la limitation des doses. La limitation des doses, nous avons les appareils eux-mêmes qui ont des dispositions pour réduire et focaliser le seul endroit qui doit être examiné. Plutôt que d'examiner le corps entier, par exemple, on limite, si c'est un doigt, on limite les rayonnements sur le doigt.
Okay.
Si c'est la dent, on limite à la dent là et tout le reste de l'organisme est protégé. C'est ça la limitation des doses. J'ai dit joli.
Justification, là. Optimisation et limitation de
justification, optimisation et limitation des doses.
Merci beaucoup, Papa Eugène. Je crois qu'on va écouter aussi quelques minutes qui nous restent. On va quand même écouter, ça ne sera pas dans son entièreté, l'audio de Maman Angèle, qui devait être avec nous malheureusement empêchée. On va l'écouter.
Tout le monde. Par rapport à l'examen qu'on appelle la mammographie d'abord, C'est un examen de sang. Un examen de sang. Le sang, comme tout autre organe du corps humain, arrive aussi à développer certaines maladies ou certaines pathologies, telles que le cancer des seins, les kystes des seins, l'abcès du sein, ainsi de suite. Alors, vu que c'est un organe qui peut tomber aussi malade, à ce moment-là, lorsque le malade consulte le médecin, son médecin gynécologue souvent, puisque c'est, ou oncologue, puisque ce sont des spécialistes dans ces domaines-là, ce dernier lui demande de faire soit une mammographie pour les gens qui sont déjà au-delà de 35 ans, donc à partir des 40 ans évolués et révolus, là, on demande la mammographie. Chez les jeunes filles qui n'ont pas encore atteint l'âge de 35 ans, chez eux, on demande une échographie de sein ou une écho mammaire. Pourquoi on demande une échographie mammaire à ce malade-là qui développe soit un cancer de sein, soit un abcès, soit un kyste de sein? C'est pour la simple raison que chez ces jeunes-là, leur glande mammaire contient encore, du fait qu'ils n'ont pas encore allaité, leur canaux de lactophore contiennent encore beaucoup, beaucoup de lait, si on peut le dire, en termes peut-être vulgaires. Alors, comme ils n'ont pas encore allaité, leur poitrine, ou pardon, leur sein sont encore denses. Alors, demander de faire une radio de sein, qu'on appelle la mammographie, à ces genres de personnes de cette tranche d'âge-là, c'est-à-dire qu'on ne verra absolument rien à cause de la densité, mammaire et de la densité même des rayons X. La raison pour laquelle on oriente ces malades-là seulement à l'échographie, puisque l'échographie donnera de plus amples informations que si l'on faisait la mammographie. Là, c'est pour les jeunes filles qui ne sont pas au-delà des 30 ans. Donc, on peut commencer. C'est que vous devez retenir que même la petite fille de 9, 8, 9 ans qui a déjà vu ses règles, elle est prédisposée à développer au moins un cancer de sein, puisqu'elle a, elle a vu ses règles très tôt. Très tôt.
On s'arrête là. L'audio est tellement long, le temps nous fait défaut, nous signale déjà que c'est la fin. Nous avons compris ce que vous avez dit. Je crois que maman Angèle vous a complété. Et des précisions peut-être sur l'âge. Vous ne pensez pas que c'est discutable lorsqu'on dit moins de 35 ans? Parce qu'aujourd'hui, il y a des jeunes filles de 20 ans, de 18 ans qui mettent au monde, qui allaitent. Et si la seule condition, c'est que ce soit des jeunes filles, qui peuvent passer à l'échographie, ou l'échographie, ce sont celles-là qui n'ont pas encore, c'est-à-dire moins de 35 ans, qui n'ont pas encore allaité, c'est quand même discutable par rapport à l'âge. Disons peut-être par rapport à l'état de la jeune fille qui n'a pas encore eu d'enfant, qui n'a pas encore allaité, c'est celle-là qui doit faire l'échographie, qui doit recourir à l'échographie. Par contre, si vous avez 25 ans, mais vous avez peut-être deux enfants, ça veut dire que vous avez déjà dépassé, vous pouvez recourir à autre examen en dehors de l'échographie.
Nous devons être positifs, hein? Nous ne devons pas paniquer.
Okay.
Parce que lorsqu'on commence à parler de cancer à un certain moment, c'est une notion qui peut apporter la panique dans la communauté.
Oui.
Et c'est par rapport à cette question pratiquement, hein, lors des dépistages, hein, que votre question s'oriente en disant, ben, est-ce que ce n'est pas discutable pour dire la tranche d'âge pour laquelle l'échographie, ce qu'on appelle l'échomammaire, est mieux indiquée. Et la mammographie serait indiquée pour les personnes plus âgées. En fait, c'est effectivement l'exploitation du sein ou l'utilisation du sein. Mmh. Si le sein est vraiment très exploité, la densité du sein, tel que Maman Angèle l'a dit, hein, un sein qui n'est pas très très longtemps exploité, mmh. c'est un sein qui est dense mmh. et qui concentre une très grande quantité de lait.
Okay.
Hein, de telle sorte que un sein qui est dense, c'est un sein pour lequel, lorsque vous faites une radiographie, l'image hein, de la radiographie du sein va apparaître, pour des termes vulgaires, va apparaître une image blanche. Mmh. Et ce que nous recherchons, hein, mmh. le sein lui-même est blanc. Mmh. Vous voyez ? Ok, le sein est blanc, l'image est blanche.
Oui.
Et ça se confond, mmh. on ne saura pas faire le diagnostic.
Oui.
Alors que si on fait l'échographie, l'image là, de la tumeur mmh. est noire pour un sein mmh. qui est blanc.
Okay. Mmh.
Le contraste là permet de faire le diagnostic.
Merci beaucoup. Il y a tellement de la matière, mais le temps nous fait défaut. Un dernier mot, Madame Carmel.
Tout d'abord, je remercie Maman Régine pour nous avoir donné l'espace de parler à propos de l'imagerie médicale. Un grand merci. Donc, je sais qu'à la prochaine, nous allons continuer à parler parce que la matière est tellement vaste.
Oui.
Donc, à la prochaine fois, nous serons toujours la bienvenue, j'espère bien.
Merci beaucoup, vous serez les bienvenus, monsieur Jeune. Oui, que retenir de la radio Oregon en deux, trois secondes.
Merci pour cette émission de la femme.
Oui.
Et nous devons toujours accompagner la femme, encourager la femme. Il ne faut pas avoir peur, mais lorsqu'il faut recourir à une technique de l'imagerie, l'échographie, c'est une technique qui est au centre dans toutes ces disciplines-là, hein, où nous avons dit la radiographie, l'échographie, la scintigraphie, le scanner, et l'imagerie par résonance magnétique.
L'IRM. Merci beaucoup à M. Eugène Moulenda. Merci aussi à Mme Carmel Mukondo, mais aussi à Mme Angèle Mbombo, qui a intervenu de loin. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi à tous nos fidèles auditeurs qui sont à l'écoute donc, de cette émission. On se retrouve lundi prochain dans un nouveau numéro. D'ici là, restez branchés au programme de Radio Maria. Au revoir.
Femmes en action concrète.
Une émission conçue pour la promotion de la femme.
Que fait la femme pour survivre?
Comment développer le travail de la femme?
Quelle est la position de la femme dans le monde du travail?
Pour en savoir plus,
suivez l'émission Femmes en action concrète.
Femmes en action concrète.
Une émission qui valorise les activités de la femme et de la jeune fille au quotidien.
À la présentation,
Régine Bahia Pai Pai.
Femmes en action concrète.
À suivre chaque lundi à 16h30 sur la bande FM Radio Maria 89.9 MHz Kinshasa.
Vous désirez participer à cette émission?
Contactez-nous au +243 89 48 70 426.